Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était le 4 août 2020 à Beyrouth. Ce jour-là, une terrible explosion a détruit le port et ses alentours, faisant de très nombreux morts et blessés. Un choc pour tous les Libanais sur place et ailleurs. En France, l'auteur de romans graphiques, Lamia Ziadeh, a aussi été terriblement sidéré par la dévastation de sa ville natale. Une tragédie qui est au cœur de son nouvel ouvrage, publié aux éditions POL. Il s'intitule « Mon port de Beyrouth », sous-titré « C'est une malédiction, ton pauvre pays ». Un livre où elle revient sur la chronologie de l'événement, mais où elle raconte aussi son lien intime, familial à ce site, et de façon plus large, l'histoire des 50 dernières années du Liban, qui sans doute ont conduit à l'explosion de ces 2250 tonnes de nitrate d'ammonium. Sans oublier tous ces dessins où elle représente le visage des victimes, les scènes de chaos, les images du passé et les fragments de vie. Un récit d'où émane une très grande émotion, tant à la lecture que lors de cette rencontre avec Lamia Ziadeh, que nous sommes allés voir, Richard Rifono et moi, dans son appartement à Paris. Bonjour Lamia Ziadeh.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour parler de votre nouveau livre. Déchirant, vraiment comme un cri du cœur. À quel moment avez-vous senti la nécessité d'écrire ce livre ? Est-ce que c'était tout de suite après le 4 août ou plus tard, quand la colère a succédé à la sidération et à la tristesse ?
Alors, ce n'est pas moi qui ai senti la nécessité de dessiner et d'écrire sur cette tragédie. Je n'y ai même pas pensé, j'en étais, je pense, incapable. C'est venu plutôt de l'extérieur, d'une proposition du magazine Le M du Monde, de me donner carte blanche pour une dizaine de pages pour raconter ce moment. Et c'est une proposition d'ailleurs que j'ai commencé par refuser parce que je ne m'en sentais absolument pas capable. Et dès le lendemain, je me suis dit, mais non, ça ne se refuse pas, il faut que je fasse quelque chose. De toute façon, j'étais là à pleurer chez moi, mais vraiment en sanglots non-stop depuis 2 jours. Je me suis dit, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, j'ai fait une quinzaine de pages qui sont parues dans Le Monde. Et puis, je pensais m'arrêter là. Et là, c'est au contraire mon éditeur qui, donc toujours de l'extérieur, est venu me dire « Mais non, mais c'est pas possible de laisser ça comme ça. C'est un travail magnifique, il faut continuer. » Et là, pareil, j'ai dit « Mais non, je ne peux pas me lancer encore plus dans me noyer encore plus dans ce truc. » Et finalement, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» J'étais tellement impuissante, c'est tout ce que je peux faire. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était très peu pour autant de travail, mais bon, les circonstances aidantes, c'est-à-dire l'épidémie, etc., les confinements, ça m'a aidée à vraiment me concentrer, à ne faire que ça pendant 6 mois. Et c'est comme ça que je suis arrivée à ce résultat en si peu de temps.
C'est en effet très proche de l'actualité. En même temps, c'est intéressant ce que vous nous dites, Lamia Ziadeh, que vous, l'artiste, vous n'ayez pas eu recours justement à cet art de l'écriture et du dessin que vous maîtrisez pour faire, je ne sais pas, une sorte d'état des lieux et que la demande soit venue de l'extérieur. Vous étiez donc extrêmement choquée.
Ah oui, moi j'étais cassée. Je ne pouvais pas imaginer, rien. J'étais effondrée. Autour de moi, tout le monde, tous les Libanais étaient dans cet état. Et vraiment, je n'ai pas pensé une seconde à... Vraiment, quand je dis ça, et même, j'en avais même pas envie. Je me suis sentie plutôt obligée de le faire que d'avoir envie. Mais au final, ça m'a beaucoup aidée, je pense, à surmonter ces moments-là, d'être active et d'en faire quelque chose. puisque je ne pouvais rien pour le Liban. Mais au moins, en plus, c'était à ce moment-là, d'ailleurs, c'est toujours le cas, les gens sur place, etc., n'arrêtaient pas de dire « parler du Liban, continuer à parler du Liban, il faut continuer à parler du Liban », je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, donc du coup, je me suis dit « bon, ben, c'est la seule chose que je peux faire », et du coup, j'y suis allée à fond. Et...
Donc, vous vous attaquez à ce projet qui est en effet à plusieurs étages, comme je le disais, avec dans un premier temps, on a l'impression un souci de témoigner, peut-être de collecter des informations, des images. Et puis, justement, ces images, elles arrivent très vite après l'explosion par des gens qui sont sur place, qui envoient sur les réseaux sociaux, qui témoignent des vidéos de cette explosion. Et puis, il y a cette équipe de pompiers, parmi lesquels Sahar, qui était sur le quai, qui a été une des premières victimes directes quand la porte a été ouverte et que ces 2250 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé. Elle avait 27 ans, elle allait se marier et c'est son visage à elle que vous allez dessiner à plusieurs reprises dans votre livre. Pour vous, elle est devenue un peu l'icône de cette tragédie ?
Oui, une des icônes, mais probablement la plus attractive parce qu'elle est très belle. Et très, elle a l'air très sympathique et elle était en plus pompier bénévole, donc je veux dire, c'est... Et je l'ai dessinée et suivie du début du livre jusqu'à la fin parce qu'en fait, pendant tout le temps, les 6 mois où je faisais le livre, de nouvelles photos d'elle apparaissaient régulièrement. Alors à ses fiançailles, les fiançailles, le Noël... Et du coup, voilà, c'est pendant que je faisais le livre, j'avais chaque fois des nouvelles photos qui apparaissaient. Donc, j'avais envie de continuer à... Donc, je ne me suis pas arrêtée pour elle autour du 4 août, mais jusqu'à 6 mois après, où c'est justement, je clôture le livre par son anniversaire. 6 mois après le 4 août, ou 7 mois, je ne sais plus très bien, ou 5 mois, c'était son anniversaire et tout le monde a... Alors, au Liban, ça devient très viral, les vidéos comme ça. La vidéo où elle souffle ses dernières bougies dans la caserne de pompiers. J'ai fini le livre sur ça, c'était...
C'est tellement émouvant.
Oui, vraiment. Moi, j'étais tellement émue de voir 6 mois après une photo. En plus, c'était pas une photo, mais une vidéo. C'était très, très, très émouvant. Donc, j'avais déjà terminé mon livre depuis, je sais pas, une semaine. Je me suis dit, il faut que je rajoute cette dernière image.
Donc, en hommage à ces femmes, ces hommes, ces enfants morts à cause de l'explosion, vous avez dessiné leur visage à partir de photos. N'est-ce pas ?
Oui, c'est des photos que j'ai trouvées sur Instagram parce que, comme je vous disais, tout le monde s'est mis à relayer tout ce qui avait un lien avec le 4 août. Chacun a posté des photos de soi-même, de les gens de leur propre famille, etc. Mais aussi, tout le monde a posté les enfants, les photos de cette petite fille qui est morte,
Alexandra,
de ce jeune garçon de 15 ans aussi. Ils sont devenus un peu comme des membres de la famille de tout le monde, quoi. C'est très bizarre ce qui s'est passé. C'est à cause des réseaux sociaux, bien sûr, et Instagram, et que c'est un moyen de communication déjà au Liban, déjà bien installé et très, très commun. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir toutes les infos, parce que je n'étais pas sur place. Donc,
Et j'aimerais que vous nous expliquiez, Lamia Ziadeh, ce geste du dessin, à partir donc de photographies ou de vos propres photos d'ailleurs, ou d'extraits de journaux. Et je me disais, est-ce que c'est une façon pour vous aussi d'ancrer dans l'histoire ces visages pour qu'ils ne restent plus anonymes ni inconnus, d'autant plus avoir leur place dans un livre, un objet qui reste, contrairement aux images qui ont un destin relativement éphémère, et peut-être l'art du dessin qui était un art comme un chemin vers le deuil, vraiment avec le temps s'approprier un visage et l'accompagner dans la mort.
Oui, enfin, j'ai pas réfléchi, je pense à tout ça, parce que de toute façon, c'est mon mode d'expression, c'est le dessin déjà dans mes autres livres. Donc naturellement, là, j'ai dessiné. Mais c'est vrai que ces photos de ces victimes sur Instagram n'étaient pas forcément belles. Hein. C'était des photos, c'est même pas souvent leur famille qui a mis la photo, mais des photos qui se sont trouvées là. C'est pas la plus belle photo de chaque personne, etc. Et je pense que le dessin a apporté plus d'humanité, de beauté à ces photos qui sont parfois des photos passeport super ratées, mais qui m'ont beaucoup touchée. Parce que c'était des gens que j'avais l'impression de connaître. Il y avait un peu des gens de tous les milieux et toutes les confessions, et des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, etc. Mais c'était vraiment des gens que j'avais l'impression de connaître. Et ouais, du coup, voilà le dessin. Mais sinon, oui, c'est aussi... Moi, je ne suis pas en général très... ni fait divers, ni victime, et les hommages, etc. C'est vraiment... normalement, j'en suis hyper éloignée. Mais cette fois, je ne sais pas comment... Enfin, voilà, c'était tellement énorme de voir Beyrouth détruit et ces gens-là, je me suis sentie très proche d'eux, contrairement à mon habitude. Et du coup, j'ai voulu... Il rythme le livre, donc je ne parle pas spécialement des victimes, que je ne connais pas d'ailleurs, sauf quelques-unes. Mais ils reviennent régulièrement dans le livre comme une ponctuation, sans prévenir, comme ça, toutes les 5-6 pages, il y a une série de quelques portraits.
Alors, il faut dire aussi, l'ami Aziadé, que si vous êtes aussi sensible à ce qui s'est passé, c'est que le port de Beyrouth, c'est vraiment un lieu qui est très cher à votre cœur et à votre famille, puisqu'en distance, il y a un peu plus de 800 mètres peut-être, avec l'appartement familial où vous vous retrouviez tous. Alors heureusement, vous nous le racontez, votre famille, même si leurs foyers ont été détruits, votre famille n'a pas été touchée, vos parents ni vos frères et sœurs, me semble-t-il.
Oui, non, ils ont...
Mais néanmoins, le port de Beyrouth a une place très particulière dans votre histoire personnelle.
C'est 650 mètres.
Voilà.
la maison de ma grand-mère est à 650 mètres du port. Et elle était complètement soufflée, détruite. Enfin, les plafonds sont tombés, la façade, les trois arcades. C'est une vieille maison libanaise. Les trois arcades de la façade sont tombées. Plusieurs pans de mur, à part le toit, etc. Enfin, voilà. De voir ça, ça m'a... Ça, bon, déjà le port détruit, enfin je veux dire, de toute façon c'est indescriptible ce qu'on a ressenti, et vraiment monstrueux, hein. C'est pire que tout, quoi. Je pense qu'on a beau avoir vécu 15 ans de guerre, si on n'était pas à Beyrouth ce jour-là, je crois que ça ne s'approche de rien de ce qu'on a connu.
Oui, et ce que vous rappelez dans votre livre, La Maziadé, c'est que donc il y a ce port, mais que la déflagration est beaucoup plus vaste. On est sur des kilomètres à la ronde, et ainsi les hôpitaux, dont l'hôpital orthodoxe vers lequel se sont réfugiés les blessés, ont été soufflés eux aussi. Et les médecins, les infirmières, les patients, eux aussi ont été profondément blessés, certains en sont décédés, dont un père qui venait rendre visite à son enfant qui était dans un service d'oncologie. Et ça, on oublie un peu de dire que c'est toute la ville qui a été soufflée.
Oui, oui, l'hôpital orthodoxe est très proche du port, et il y a eu beaucoup de morts, que ce soit les patients. Il y a eu 4 infirmières mortes quand même dans cet hôpital-là, et du coup, c'est tous les blessés, évidemment, se sont précipités vers l'hôpital orthodoxe ou vers l'hôpital Werdi, qui est encore plus près du port, ou l'hôpital de la quarantaine. Et les trois hôpitaux étaient complètes, et Jarita, oui, aussi, ils étaient complètes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu accueillir les blessés qui étaient... puisque eux-mêmes, les médecins, les infirmières étaient blessés, l'hôpital détruit. Donc ça a augmenté aussi l'ampleur du désastre, quoi.
Il a un miracle. Il y a quelques miracles. Une infirmière qui sauve 3 bébés prématurés, puisque évidemment dans le service de natalité, il y a des bébés prématurés dans des couveuses. Les couveuses ont explosé. Et là, il y a cette infirmière qui prend 3 bébés sous le bras, qui fuit l'hôpital, qui marche pendant 3 quarts d'heure
Oui, elle est allée au début, première réaction, vers les autres hôpitaux, et quand elle a vu qu'ils étaient détruits aussi, elle a foncé vers l'autoroute, elle a sauté dans une voiture qui s'est arrêtée et elle a emmené les bébés en dehors de Beyrouth, dans une banlieue où un hôpital les a reçus.
Ils ont été sauvés.
Et c'était une très jeune femme et elle n'a demandé à personne. Enfin, je veux dire, il faut un sacré caractère, je pense, pour arriver à faire ça, être sûre d'elle. Et quand les parents sont arrivés à l'hôpital orthodoxe où étaient les enfants en couveuse, ils ont vraiment cru que leurs enfants étaient morts parce que ils ont vu l'état de l'hôpital, des bébés en couveuse, et ils n'en revenaient pas quand ils ont appris que leurs enfants étaient dans un hôpital en dehors de Beyrouth, sauvés par cette infirmière.
Est-ce que précisément dans ces scènes de chaos, de souffrance, d'enfer, d'apocalypse que vous décrivez, ces quelques épisodes héroïques où des enfants sont sauvés, des personnes sont sauvées, ça vous a aidé, ça vous a porté pour continuer à écrire le livre, pour ne pas vous effondrer?
Ça suffit pas. Oui, si. Mais j'ai découvert ces histoires. Oui, j'étais complètement fascinée par ce qu'ont fait certaines personnes, etc. Mais les mauvaises nouvelles ont continué à venir. C'est-à-dire que l'explosion c'est un espoir que j'ai eu, que cette explosion soit tellement un truc tellement énorme, tellement monstrueux, que au moins ça allait nous débarrasser de la classe politique qui est au pouvoir et qui nous a mené à ça, parce que ils savaient qu'il y avait ce nitrate d'ammonium dans le porc. Enfin, c'est tout un système qui a mené à ça. C'est pas voilà. Et en fait, pas du tout. Et ça, pendant que je faisais le livre, ça c'était très dur parce que je voyais qu'on s'enfonçait encore plus, que l'explosion, c'était même pas le pire, quoi. Que le pire arrive jour après jour, et ça, c'est très déprimant. Du coup, il fallait que je sois efficace, rapide, concentrée, de pas trop me laisser aller à pas trop de désespoir. C'est ça qui m'a tenue, c'est de faire le boulot bien et. Et c'est plus ça qui m'a aidé.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Lamia Ziadeh, avec qui nous parlons de ce nouveau livre « Mon port de Beyrouth » publié aux éditions POL et sous-titré, c'est important, « C'est une malédiction, ton pauvre pays ». C'est une phrase juste après...
C'est un texto qu'un ami m'a envoyé quelques minutes après que le monde entier ait vu...
Vous le croyez aussi, vous, que c'est une malédiction, le Liban ?
Ah oui,
c'est vrai. Et vous, vous ne voulez pas en dire plus ?
Ah, je sais pas. C'est une façon de parler, de s'exclamer, disons, de dire ça. Évidemment, après, on peut analyser les raisons, la part de responsabilité de chaque personne, des Libanais en général, de tout ça. Mais là, franchement. Moi, j'aime bien ce résumé malédiction.
Alors, c'est vrai que vous racontez, parce que c'est un livre qui est à la fois un livre documentaire, un livre familial, mais aussi un livre qui s'appuie sur l'histoire du Liban. Vous racontez que finalement, ce qui s'est passé ce 4 août, ça trouve sa source dans les 50 dernières années. Parce qu'il y a eu des échecs politiques, il y a eu une défaillance des gouvernements depuis le président Chehab, c'est ça ?
Après lui, oui.
Après lui, qui...
Et avant lui.
En tout cas, on a l'impression, en vous lisant, que c'est l'accumulation de tous ces dysfonctionnements depuis 50 ans qui font qu'aujourd'hui, ces 2250 tonnes qui explosent sont presque le résultat de toutes ces défaillances.
C'est ça que j'ai bien aimé faire dans ce livre. Et là, j'y ai pris du plaisir, même si c'était très, très, très déprimant. C'est de me replonger dans l'histoire ancienne du Liban. Et bon, après, c'est des choix j'ai raconté certains épisodes, mais c'est mon choix. Ce n'est pas un livre d'histoire, hein. C'est ma façon de voir les choses. Et ça, j'ai bien aimé le faire. Donc. Je raconte un peu la construction du port de Beyrouth qui était sous l'ère justement du président Chehab, du troisième bassin du port de Beyrouth, celui qui a explosé. Et ça, c'était un vrai plaisir de me replonger dans des archives. J'ai découvert plein de choses que j'ignorais et c'est un plaisir que j'ai dans tous mes livres. C'est la partie que j'adore. Et du coup, quand je découvre des choses que je trouve intéressantes et tout, j'aime bien les partager. Donc, effectivement, le livre n'est pas seulement sur l'explosion du 4 août et l'après 4 août et puis l'avant 4 août, c'est-à-dire la révolution d'octobre, etc. Mais remonte souvent aux années 40, 60, où je raconte des épisodes beaucoup plus anciens, mais qui jettent une lumière sur la situation où on est arrivé.
Et en même temps, vous nous en parlez avec beaucoup de douceur, l'ami Aziadé, et moi j'ai senti une grande colère dans votre écriture. Mais vraiment, une colère contre cette violence. D'ailleurs, vous dites, mais est-ce que je suis pas née avec cette violence qui émerge juste avant les années 70? Vous vous posez des questions. C'est une violence, c'est la guerre civile, c'est les échecs politiques, et puis c'est une forme d'injustice. Et là, vous nous en parlez avec beaucoup de calme. J'ai l'impression que néanmoins, en vous, il y a vraiment une grande colère.
Ah oui, c'est immense colère. Je pense que c'est partager c'est de la rage, quoi. C'est vraiment, mais c'est tellement de gâchis par rapport à ce pays qui était un vrai paradis, je pense, et tellement de... d'incompétence, de malveillance, de tas de choses accumulées, plus une situation géopolitique dans la région pour le minimum ultra compliquée, en plus avec toutes ces confessions qu'on a, etc. Mais on n'était pas obligé forcément d'en arriver là, quoi. Mais là, la colère énorme se retourne là vraiment et tournée vers la classe politique qui, malgré ce 4 août qui est genre la fin du monde, quoi, pour le Liban, là, malgré ça, ils sont encore en train d'essayer de profiter et de piller le pays et d'accaparer le pouvoir et voilà. C'est ça qui est le plus enrageant. C'est que ça n'a même pas servi à ce qu'on essaye de faire quelque chose pour s'en sortir, quoi.
Donc il y a à la fois cette colère et puis aussi vous dites qu'il y a une forme de culpabilité chez vous parce que vous n'êtes pas retourné
au Liban depuis le 4 août, mais en même temps avec beaucoup d'honnêteté, de transparence, vous dites « parce que j'ai peur ». Et c'est aussi une peur qui renvoie à celle que vous avez eue pendant justement la guerre civile, qui a été évidemment terrible, qui néanmoins, alors que vous étiez à Paris étudiante, ne vous empêchait pas d'y retourner. Mais donc, c'est comme si cette peur avait été ravivée. Est-ce qu'en effet, ça a réveillé ce 4 août des vieux fantômes chez vous?
Oui, en fait, qui n'étaient jamais vraiment calmés. Par exemple, j'ai très peur en avion, mais je sais que c'est un résultat de j'ai des peurs, enfin, qui sont dans ma vie quotidienne tout le temps avant le 4 août. Donc, mais oui, c'est sûr que ça les a encore plus augmentés.
Alors, ce livre si beau, il n'est pas que pour les Français, il est aussi pour les Libanais.
Ah, il est surtout
pour les Libanais, on est bien d'accord.
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. D'ailleurs, depuis 4 jours ou 5 jours que le livre est sorti, j'arrête pas d'avoir des messages de Libanais, mais que je connais même pas du tout, qui m'écrivent, qui m'envoient des messages sur Instagram ou pour me dire merci d'avoir fait ce livre. Tout, ça me réconforte beaucoup parce que je m'attendais pas à ça. Et pourtant, je l'ai vraiment fait comme mes autres livres, un peu comme un témoignage un espèce de truc d'archivage un peu voilà.
Puisque c'est un livre pour les Libanais, est-ce que vous allez aller le porter, ce livre là-bas, en parler avec vos lectrices et vos lecteurs?
Ah oui, je vais y aller là dès que en fin de, je sais pas, confinement, je sais pas, dès que c'est possible, je vais y aller.
Donc ça veut dire que vous avez dépassé le stade de la peur?
Non, j'ai toujours peur, mais c'est vraiment parce que ça me manque terriblement, quoi. Il faut que j'y retourne vite, là.
Merci beaucoup, Lamia Ziadeh, pour ce très beau livre d'art également, hein, puisqu'il est émaillé de tous ces si beaux dessins, ne serait-ce que sur la couverture où on voit un grand-oncle qui a travaillé sur le port, qui a construit le port de Beyrouth. Une affiche que vous-même avez conçue de cette femme qui crie.
Oui, qui était dans les rues de Beyrouth en octobre 2019.
Sahar, évidemment, cette jeune femme pompier dont on a parlé. Un des bateaux.
Le bateau qui a apporté le nitrate d'ammonium à Beyrouth, le Rosus.
Le bateau russe. Ça, c'est un dessin très beau de cette femme qui a aussi perdu la vie, n'est-ce pas, Lady Cochrane?
Oui, c'est son palais et aussi la vie.
Là, la vaisselle brisée qui fait écho à un chapitre magnifique sur le sortilège des objets dont on n'a pas parlé, mais qui est fascinant, parce qu'on voit combien, malgré le souffle, certaines vaisselles sont restées totalement intactes. Alors que les murs entiers se sont écroulés à côté, enfin, il y a quelque chose d'inouï, l'explosion et puis des yeux qui pleurent. Les vôtres?
Oui, pas que.
Et pas que. Voilà, mon port de Beyrouth, c'est une malédiction, ton pauvre pays, un beau livre de Lamia Ziadeh paru aux éditions POL. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En sol.